Bonsoir Nina Bois, oui.
Bonsoir.
Nous sommes avec vous ce soir pour deux romans, Le désir d'un roman sans fin et Grand Seigneur, aux éditions Jean-Claude Lattès. Nina Bouraoui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression, en ayant écrit ce livre-là, après votre carrière littéraire qu'on ne présente plus, d'arriver vraiment au particulièrement, de façon particulièrement approfondie à cette merveilleuse quête que vous avez, qu'on retrouve dans tous vos livres, qui est celle de l'écriture qui cherche l'équilibre entre la violence et la délicatesse?
Ah oui, je crois. Je crois que l'expérience que j'ai vécue auprès de mon père mourant a certainement agi comme une forme de contagion sur mon écriture. Je crois que la littérature est là pour exprimer un propos très universel, mais en racontant ma propre histoire, il me fallait trouver le mot le plus juste pour restituer la douleur, pour restituer la vaillance, le courage, le combat de cet homme. Et c'est vrai que il me semble avoir... alors, on acquit en maturité hein, quand on perd un parent, mais il me semble avoir acquis en maturité aussi en écriture, parce que c'est une écriture qui provient de la douleur, mais que j'ai voulu quand même majestueuse, que j'ai voulu lumineuse, que j'ai voulu le plus ample possible, pas du tout resserrée sur ma petite personne. Et c'est vrai qu'un écrivain porte en lui très très longtemps, dès qu'il écrit finalement, il sait très bien qu'il y a une sorte de menace qui plane au-dessus de sa tête, que l'écriture un jour servira à raconter la mort des siens. Et je trouve que ça, c'est très vertigineux. Je ne pensais pas que ça arriverait, parce qu'un écrivain vit un peu dans un monde parfois enfantin, où la mort n'existe pas. Et mon père mourant, il me semblait absolument nécessaire, vital, important, de raconter cette agonie-là, pour lui, mais pour tous mes partenaires qui forment ce que je nomme le club des inconsolables.
Et on va y revenir en détail, mais toutefois, cet équilibre dont je parlais et qu'on retrouve toujours dans votre écriture, si acéré, si pertinent, si saisissant aussi pour le lecteur, qui est toujours voilà, cet équilibre entre la violence du réel et la quête de la beauté. Vous dites dans ce livre que finalement, à 19 ans, ce qui nous caractérise, c'est la fête, la beauté, le désir. Vous semblez avoir quand même préservé une part de ça comme un trésor secret transmis par votre père. Et on a l'impression que cet équilibre entre, je le disais, violence et délicatesse, c'est aussi votre père qui vous l'a transmis. Parce qu'on découvre que votre père a une vie à la fois en quête de beauté, de délicatesse, et en même temps parcouru d'événements humiliants, difficiles et douloureux.
Oui, complètement. Je crois qu'on se ressemble beaucoup. On se ressemblait physiquement, je ressemble beaucoup à mon père, mais je pense que alors les trajectoires sont différentes parce que lui était ce qu'on nommait un haut fonctionnaire, mais il écrivait beaucoup, il écrivait la nuit, des discours, ses discours, il a représenté son pays notamment au FMI, il a travaillé à la Banque Centrale d'Algérie, et cet homme qui écrivait me donnait très envie, c'est-à-dire que ce rôle d'écriture, j'y voyais de la puissance et de la force, et mon père avait aussi ce don de joie, ce don de vie, d'aimer la vie, d'être amoureux de la vie. D'ailleurs, mon père me disait toujours « moi, je ne vais pas mourir hein. », ou alors « moi, jusqu'à au moins 100 ans, je vais vivre ». Il y avait, et même à Jeanne Garnier, il me disait « quand est-ce que je sors de cet hôtel ?» parce qu'il ne savait plus trop où il était. Et pour lui, il était évident que la mort n'était pas au rendez-vous, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai hérité cela de lui. Et dans mes livres, il y a cette recherche permanente de raconter le désir, de raconter la beauté. Pourquoi aussi la beauté? Parce que j'ai grandi dans un pays follement beau, mais d'une beauté en désordre. La main de l'homme ne l'a jamais ordonnée. Et c'était une beauté presque violente, presque mélancolique. En Algérie, dans les années 70, rien n'était prévu pour les enfants. Et moi, j'ai passé mon enfant, j'ai grandi parmi les ruines romaines de Tipaza. C'était ça, de jouer les jeux, c'était jouer entre les ruines. Donc jouer finalement un peu avec la mort, avec le passé, avec l'histoire. Mais ça m'a aguerri, ça m'a donné un œil très acéré sur l'esthétisme qui m'a beaucoup servi dans mon écriture. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout raconter, mais qu'il faut le raconter avec une forme d'élégance, une forme de, oui, de poésie. Ma vie est ainsi, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, pour moi, le ciel est un décor, fait partie de mon décor. J'occupe le réel, Je pense que je suis à côté du réel. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu avec ma famille pendant ces 11 jours dans ce centre de soins palliatifs, cela m'a ramenée au réel d'une façon terrifiante, troublante, violente, parce que assister à la mort de quelqu'un qui est son père, c'est aussi assister au travail en œuvre, à l'œuvre de la maladie. Je le reconnaissais plus. On est dénaturé. Et tout d'un coup, mon père est devenu un étranger pour moi. Je ne sais plus qui. Je ne reconnaissais plus son visage. Et à la fois, j'étais dans une forme d'hypnose parce que ces lieux sont hypnotiques. Moi, je n'y ai rencontré que la vie, que la douceur, que la tendresse de gens qui y travaillent et qui, je trouve, qui sont franchement des saints. Nous devons les saluer, les remercier. Un lieu que je ne voulais plus quitter. Moi, je passais 8 heures au chevet de mon père parce que je trouvais qu'il s'y jouait la plus grande expérience de la vie, la plus importante, et que je ne devais rien rater et que je devais restituer après par l'écriture. Ça a été un devoir. Ce livre s'est imposé. Je ne me suis pas dit « Ah, je vais écrire sur la mort de mon père ». C'était... Je ne pouvais pas faire autrement. Parce que peut-être aussi, à 56 ans, elle me semble maîtriser maintenant l'écriture. Parfois, elle restitue la violence du monde, mais elle-même, dans son cœur, elle n'est plus violente. Elle est beaucoup plus ouverte, elle regarde plus le lecteur, je trouve. Elle est beaucoup plus universelle. Alors, cette expérience-là aussi a fait grandir cette écriture-là.
Et on le voit bien, même quand vous parlez, il y a toujours quelque chose chez vous en quête du binôme, du deux, du double, du couple. Et là encore, avec votre père, on retrouve bien ce goût, cette appétence pour deux espaces, le réel, l'imaginaire, le temps du passé, le temps du présent, travailler avec quelqu'un qu'on aime, désirer quelqu'un qu'on aime. Il y a toujours chez vous, dans votre écriture, quelque chose qui fonctionne avec le deux. Oui,
oui, oui, complètement, parce que c'est mon identité, parce que ma mère est française, mon père était algérien, que cette dualité, il a fallu la vivre, la porter. C'était pas toujours évident, puisqu'en Algérie, on était considérés comme des arabisants à l'école française parce que notre père avait un nom algérien, mais on parlait pas arabe. Mais on était obligés de prendre des cours d'arabe, de suivre des cours d'arabe. Ma mère française en Algérie n'était pas toujours très bien traitée. Moi, j'en étais le témoin. En France, je n'ai jamais souffert de racisme. D'abord parce que je suis française. Mais je sentais parfois, chez mes grands-parents, c'était une autre génération, j'étais différente, mais cette différence ne faisait pas que je n'étais pas aimée. Parfois, j'étais plus aimée que mes cousins parce que je venais d'Alger et que je passais mes étés en Bretagne et que ma grand-mère me disait, Simone, que j'adorais, me disait « Ah, ça y est, je retrouve ta cuisse bretonne, là !» Et donc, j'étais vraiment... j'ai toujours été tiraillée. Après, j'ai grandi, j'ai une sœur, mais j'ai grandi auprès d'un garçon qui s'appelait Amine, qui était comme mon frère. C'était mon double masculin. Que j'ai après, on s'est quitté à 11 ans. Sa mère nous a séparés parce qu'elle avait peur que je le contamine dans mes troubles de genre. Ça a été le premier choc de ma vie. Et puis, il y a eu aussi cette dualité. Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? On était dans les années 70. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans un foyer. Bon, ma mère était très laxiste. Mon père était très souvent en voyage. Quand il rentrait, il faisait preuve d'autorité, parfois de sévérité, parfois de brutalité. Mais ça, je lui accordais mon pardon sur son lit de mort, c'était aussi important de le dire. Dualité, je dessinais, j'écrivais. Je ne savais pas vraiment quoi choisir, mais finalement, c'est l'écriture qui s'est imposée, même si je continue un peu à dessiner. Après, dualité, parce que ma féminité s'épanouit à l'adolescence, mais j'ai des résidus de virilité, parce que mon père m'a élevée comme un garçon, et c'est vrai que je le raconte dans Un Seigneur, mon père me laisse un peu en plan aujourd'hui avec ma seule féminité. Il est parti avec la virilité. Et puis dualité, parce que j'ai un physique mélangé. Je ressemble à mon père, mais j'ai quand même aussi la couleur de peau de ma mère. Et puis dualité, parce qu'il faut toujours expliquer aussi d'où l'on vient. C'est le chemin perpétuel de chacun. Moi, je sais qui je suis, mais parfois, j'ai plus su qui j'étais. C'est vrai. Il y a une très grande connaissance de moi-même aujourd'hui à 56 ans. Mais c'est vrai que plus jeune, je ne savais pas. Il a fallu occuper mon désir, qui pour moi a été longtemps contre nature. J'avais honte de celle que j'étais. Dans l'adolescence, dans l'enfance, on s'est beaucoup moqué de moi. Et tout d'un coup, il a fallu s'accaparer sa nature, s'accaparer sa fierté. Et la littérature m'a aidée pour ça. Je me suis enfin aimée dans les années 2000, quand j'ai écrit Garçon manqué, qui n'était pas mon premier roman pourtant, mais qui était le premier livre où je racontais vraiment celle que j'étais, mais avec toujours une envie d'universalité. Et les plus beaux compliments, ce sont mes jeunes lecteurs, parce que mes lecteurs ont tous les âges, tant mieux. Certains vieillissent avec moi, certains sont plus vieux que moi, mais il y a des lecteurs qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui me disent merci. Moi, j'ai toujours dit que la littérature ne sauvait de rien, surtout pas son auteur. La littérature n'est pas thérapeutique. Mais en revanche, elle est là pour éclairer l'obscurité du lecteur. Et ça, c'est la lectrice qui parle. Et j'ai éclairé l'obscurité parfois de jeunes homosexuels. Un jeune homosexuel a 7 fois plus de chances d'être confronté à l'idée du suicide qu'un jeune hétérosexuel. Il ne faut jamais l'oublier. En France, ça va mieux dans nos sociétés occidentales, mais quand même, les actes homophobes sont en recrudescence totale, que cette violence-là, elle existe encore à l'école, au collège, au lycée. Alors les livres aussi, ce sont des clés contre l'ignorance et contre la solitude.
Et on le voit bien aussi dans cet autre livre, Un désir de roman sans fin, où vous écrivez comme vous respirez et vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que finalement, cette question du masculin, féminin, qu'on retrouve dans votre écriture en général, hein, de toute façon, c'est une grande question qui fait partie des thématiques de votre réflexion littéraire. Et on le voit bien, en fait, dans ce deuxième roman aussi. Donc vous écrivez comme vous respirez, et en même temps quoi ? C'est une quête pour replacer, ou c'est une façon d'essayer de comprendre, ou c'est une revendication, ou quoi ?
Je pense que c'est tout cela à la fois. Alors, je respire, mais c'est une respiration très travaillée. Hein. On dirait pas ainsi, mais c'est beaucoup de travail. C'est s'inscrire dans le monde, c'est trouver sa place. Je pense que quand on a deux nationalités, enfin deux cultures, moi j'ai une nationalité, c'est très clair, je suis française, et c'est bizarre, en perdant mon père algérien, il me semble être encore plus française. Aujourd'hui, le continent africain, ses lignes sont floues. C'est très, très bizarre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Méditerranée, elle est vide de mon père. Et je me suis aperçue... j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, sur mon enfance, mais qui était une Algérie très fantasmée, très poétisée, une Algérie de légendes et de contes. Et finalement, je me suis aperçue, à la mort de mon père, que j'écrivais ces livres pour lui, pour son pays à lui. Ce n'était pas mon pays. Aujourd'hui, alors bien sûr, j'écrirai peut-être encore sur l'Algérie, mais j'en suis pas certaine. Ou alors peut-être si un jour j'y retourne, parce qu'il faudra bien que j'y retourne, je suis un peu obligée. Mais tout d'un coup, tout s'est effacé. Et ce désir-là, cette respiration-là, oui, elle est travaillée, mais elle est... ça a rassemblé mes deux êtres, ça a rassemblé cette dualité. Je l'ai dit, l'écriture n'est pas thérapeutique, mais c'est le chemin que j'ai choisi pour traverser la vie. Il y a 1000 chemins, il y a 1000 aventures, il y a 1000 possibilités de s'inscrire dans une vie. Il semble que les mots... Alors, j'étais un peu prédestinée, parce que Bouraoui, Raoui, en arabe, c'est raconté. Je l'ai su d'ailleurs assez tard, hein, je ne le savais pas enfant. Mais enfant, j'avais une identité tellement floue, même de genre, que le seul pays, c'était le pays des artistes, pour moi. Vraiment. Alors, au début, je voulais faire l'école du cirque. Je voulais partir parce que pour moi, c'était le voyage, c'était les roulottes, c'était le fantasme, c'était l'imaginaire, c'était les animaux, c'était les jongleurs, les clowns. Il y avait tout un univers parce que pour moi, c'était plus doux que le vrai monde. Je trouvais que puis les gens portaient des masques, donc ils étaient maquillés. Et puis après, l'écriture s'est imposée comme un territoire de grande liberté, de grande puissance, de grande force. Un territoire étrangement viril pour moi, parce que j'ai grandi dans un pays viril et pour moi, la lecture c'était féminin. Ma mère lisait beaucoup. J'ai grandi dans un milieu où les livres mangeaient les murs et où parfois je prenais des livres, je savais pas lire, mais je voyais, voilà, ma mère disait ça, c'est Simone de Beauvoir, c'est très bien, ça c'est Jean-Louis Borry, c'est spécial, ça c'est Yves Navarre, tu le découvriras plus tard, ça c'est Duras, c'est la musique. Et ma mère tenait ses livres contre elle, contre sa poitrine, comme des enfants. J'étais assez jalouse de son temps de lecture. Je pense que ma mère était assez mélancolique en Algérie. C'était pas facile. Et la lecture pour elle était une évasion. C'était les voyages, c'était quitter cet univers parfois un peu brutal pour elle, la française qu'on appelait la suédoise, parce qu'elle était très blonde, avec des yeux très clairs. Et mon père, c'était l'écriture. Et je trouvais que dans l'acte d'écrire, il y avait une virilité, quelque chose de très... C'était un peu misogyne, hein, mais je l'étais un peu, parce que c'est normal, j'étais entourée de misogynes dans ce pays. Après, je m'en suis... Les oripeaux de la misogynie, je les ai brûlés, je les ai... Mais il y avait... voilà, s'inscrire ainsi, avec... et se dire aussi que... On a essayé de me faire croire que j'avais deux patries. Donc j'ai choisi la patrie des mots, la nation des mots, la république des lettres. Je trouve que c'est celle qui me correspond le mieux et que j'aime servir. J'aime servir ce pays-là. Si je devais être un soldat, ce serait celui-là.
On découvre aussi dans ce livre quelque chose d'un petit peu singulier dans votre écriture en général. C'est tout d'un coup, justement, cet arrêt, ce temps sur le passé. Vous êtes vraiment un auteur du présent. Vous êtes un auteur du réel, même si vous y mettez votre imaginaire, vous nous emmenez autour de ce réel. Mais en attendant là, comme vous le dites, vous faites une expérience singulière dans cette chambre à Jeanne Garnier. C'est l'arrêt du temps, de l'intérieur, de l'extérieur. Okay. Mais surtout, des souvenirs, comme si certains souvenirs étaient très clairs et d'autres très flous. D'ailleurs, vous en faites des listes. Pourquoi aussi? Pour être bien sûr de ce qui est bien réel dans votre mémoire?
Mais je pense que mon père nous a joué un tour aussi. C'était quelqu'un de très secret. Ses activités, on les connaissait. Enfin, on savait ce qu'il faisait. Hein. Mon père travaillait pour la Banque centrale d'Algérie. Mais c'était quelqu'un qui était très libre, qui aimait sa famille, mais qui aimait être aussi loin de sa famille parce qu'il était très indépendant. C'est quelqu'un qui parlait peu de son enfance. Je n'ai aucune photographie de mon père enfant. Donc, en le voyant à l'agonie, je me suis dit c'était il était peut-être ainsi, il avait peut-être ce visage nourrisson, parce qu'il y a comme ça un retour des choses avec la grande maladie. Et donc, il a fallu broder sur le peu que je savais de lui, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Il part alors que c'est la guerre, parce que c'est son frère, lui, s'engage au maquis, il n'y reviendra pas. Et mon père est un étudiant assez brillant. Et ses professeurs français à l'école normale d'instituteurs de Constantine, avec l'aide de mes grands-parents et l'accord de mes grands-parents, l'aide d'amis, etc., l'exfiltre. Et puis il part en France. Il arrive à Vannes, il passe son bac à Vannes. Là, le proviseur de Vannes lui dit : « Je connais un doyen à Rennes. » Il part à Rennes, il est docteur en économie. Mon père m'a toujours dit : « La France m'a donné ma chance. Et le savoir que j'ai acquis en France, je vais le rapporter dans mon pays pour reconstruire ce pays. » Il fait partie de ces intellectuels qui sont rentrés en 62 avec beaucoup d'idéaux, beaucoup d'optimisme. Ce sont des gens qui ont été déçus, qui ont été trahis. Et donc mon père, il y a tout un pan. Pendant les années 90, l'Algérie voilà, sombre dans une guerre épouvantable, sanguinaire, entre frères, hein, vraiment. Et mon père perd son travail. Il a 56 ans, il prend sa retraite à 56 ans, c'est très très tôt. Mais il ne parle pas de sa tristesse, il ne parle pas de son désespoir. Lui qui voyageait tant, qui était si actif. Donc lorsqu'il meurt, j'ai quelques bribes. Il faut écrire tout ça. Il faut écrire aussi cette forme de déclassement qu'il a vécu. Tout d'un coup, il devient un homme sans travail à Paris, mais il fait beaucoup d'allers-retours à Alger. Il n'a pas peur, il est menacé là-bas, il a perdu des amis. Mais mon père a une sorte de... peut-être d'inconscience et le don de la joie, le don de la vie, en se disant si j'ai ce don-là, il ne m'arrivera rien. Oui, il a eu raison. Et je crois que j'ai des bribes de lui. Voilà, à la sortie de l'école, il m'apprend à nager, il m'apprend à jouer au foot, il me conduit au tennis. On va dans les marchés tous les deux sur cette placette d'Hydra, voir le boulanger, le boucher. Ces hommes qui me passent la main dans les cheveux, qui pensent que je suis un petit garçon. Moi, je suis très fière, je suis un peu le fils de mon père. Et ça, tout ça, c'est des flashs qui sont beaucoup venus dans cette chambre parce que je me suis dit, en fait, ce qui me rattache à mon père, c'est mon enfance. Et que la femme adulte, bien sûr, qu'on se connaissait, qu'on se parlait, mais il y a eu non pas une rupture, mais une égalité peut-être. J'étais devenue une femme, j'étais plus la petite fille, de son père. Et dans ce livre, c'était important de rendre hommage à cette enfance-là, parce que j'ai eu une enfance très lumineuse, très spéciale, très particulière, mais avec une luminosité très étrange qui éclaire finalement de l'intérieur tous mes livres.
de votre père, vous parlez comme d'un partenaire, parfois comme d'un meilleur ami, parfois comme d'une personne qui vous aura protégé aussi du oui. regard des autres. Mais vous dites une chose incroyable, puisque dans votre écriture, Nina Bouraoui, on retrouve vraiment cette réflexion sur le désir, comme vous le disiez. Et là, dans ce livre-là, vous dites, mais finalement, assister à l'agonie de quelqu'un, c'est la chose la plus intime au monde. Et pourtant, en termes d'intimité, vous êtes un auteur qui s'y connaît.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup écrit sur le désir. J'ai écrit beaucoup sur les hommes, sur les femmes, sur la sensualité, sur la peau, sur... Et je me suis fait cette réflexion, c'est qu'en fait, assister en effet à l'agonie de quelqu'un, c'est d'une immense intimité. C'est beaucoup plus intime que de regarder peut-être caché deux personnes qui feraient l'amour ou quelqu'un tout seul en train de faire sa vie. C'est-à-dire que je trouve que l'agonie, c'est la dernière intimité de l'humanité, je trouve. Et d'ailleurs, parfois, c'est gênant, parfois, c'est dérangeant, parfois, il faut son voile de pudeur, il faut... Les mourants nous donnent une très bonne leçon hein, d'être courageux et d'être digne. Il faut être digne et je trouve que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Moi, j'avais l'impression d'être... J'ai été quand même protégée puisque j'avais encore mes deux parents. J'ai perdu mon grand-père en 2020, il avait 106 ans, donc beaucoup de chance. Hein. Et tout d'un coup, en effet, quand je parle de l'amie, la grande amie, qui elle perd son père à 22 ans, elle m'a toujours dit, tu sais, quand tu perds l'un de tes parents, il y a la moitié du toit qui est arraché. Et c'est très juste cette vision de la maison famille, en fait, quand on a quelque chose au-dessus. Et à Jeanne Garnier, j'ai fait aussi une grande expérience et... L'expérience de la propre acceptation de ma propre mort. C'est pas facile, hein. Pas facile, mais c'est ainsi. Mais une fois de plus, dans cet endroit, étrangement, je me sentais protégée. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de choses, hein, parce qu'il y avait des voisins de chambre.
C'était dont vous parlez dans le livre. Hein.
Voilà, j'ai connu un homme qui s'appelle Georges, lui accompagné avec toute sa famille, sa sœur de 50 ans, très très malade, qui était la voisine de chambre de mon père. D'ailleurs, ils sont partis ensemble à quelques heures d'intervalle. Et puis parfois, je furetais un peu, parce qu'il y a une bibliothèque, donc j'allais à la bibliothèque, j'allais dans cette chapelle. Mon éditeur, Jean-Marc Roberts, est mort là-bas, il y a 11 ans exactement, à Jeanne Garnier. Et dans la bibliothèque, il y avait des livres de Jean-Marc. Donc je refaisais aussi une sorte de pèlerinage où je me suis dit, j'ai quand même perdu mon père d'écriture, Jean-Marc, et je suis en train de perdre mon père de filiation et de gêne et d'héritage. Donc tout ça se télescopait dans un... C'était pas désordonné, tout était très... Les horaires étaient très précis. On passait 8 heures avec ma famille. D'ailleurs, les médecins disaient c'est trop, vous l'étouffez. Et c'était un peu la mama, hein. C'était un peu la chanson d'Aznavour. Dans cette chambre, chacun attendait un geste d'amour, chacun voulait encore plus d'amour, chacun voulait encore dire plus d'amour, chacun voulait être peut-être témoin du dernier souffle. Je pense que mon père, peut-être, ça, après, il n'arrivait plus à parler, mais ça ne lui plaisait peut-être pas trop. Et mon père avait toujours parfois ces trucs très orientaux. Il disait « Ah, vous me portez la guigne, vous me portez la chkoumoun. » Et je me disais, il nous entend, il doit se dire « Elle m'énerve tout autour de moi, ma mère, ma sœur, ma nièce, mes neveux. » Mais on ne pouvait pas lâcher sa main. C'était pas, ça faisait pas partie de notre famille, était ainsi. Une famille un peu hollywoodienne, hein, un peu exagérée. Et je le regrette pas, c'est comme ça, vous ne pouvez pas le laisser partir tout seul, c'était pas possible.
Maintenant qu'il est mort, vous avez la sensation de quoi? D'un saut dans le vide ou d'une autorisation à autre chose?
Alors, je n'avais pas de regard censeur de la part de mon père, j'ai jamais senti, vous l'avez dit, c'était un allié, un compagnon, lui pourtant algérien, musulman, mais d'un islam très très libre, très moderne. Mon père aimait l'alcool, aimait les femmes, aimait la musique. Il pratiquait sa religion en secret. Et pour lui, sa religion, aimer Dieu, c'était aimer les êtres avant tout. Et c'était aimer toutes les religions. La religion n'était pas un moyen de terroriser. Et d'ailleurs, il était très triste de ce qui s'est passé dans son pays. Et il me disait toujours, tu verras, ça arrivera chez vous. J'aimais bien le chez vous. Et en fait, quand il y a eu voilà, le Bataclan, les terrasses, etc., c'était, il souffrait beaucoup de ça. Il souffrait beaucoup de cette mauvaise image aussi que certains donnaient, image fausse en plus, à cette religion-là. Mais aujourd'hui, je me sens autorisée de tout, mais je me suis toujours sentie autorisée de tout. Mon père me lisait. C'est lui qui refaisait les piles de livres dans la librairie quand j'étais passée en avant. Il parlait de moi à tout le monde. Il était très fier. Quand je lui disais, mais Alger, ça se passe bien. Il me disait, mais si quelqu'un dit quelque chose sur toi, sur ta, la femme que tu es. On ne disait pas trop le mot homosexuel, hein, mais on savait. Il me disait, je lui casse la gueule. Bon, il a cassé la gueule à personne. En plus, mon père n'était pas très grand et pas très costaud. Aujourd'hui, il me manque quelque chose. Il me manque une partie très forte que je vais essayer de reconquérir. Il le faut absolument. Mais en revanche, mon père m'a transmis un devoir, c'est-à-dire de continuer à écrire. Parfois, j'ai la tentation d'arrêter d'écrire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est totalement psychanalytique, puisque mon père a arrêté de travailler à 56 ans. J'ai 56 ans, donc j'ai hâte d'avoir 57 ans pour traverser cette espèce d'angoisse en ce moment qui me traverse. Et il faut que je me retourne vers Alger. Pour moi, Alger, maintenant, on savait la Méditerranée cimetière, puisque c'est la mer que l'on traverse. Pour se sauver et que de nombreux exilés y font naufrage, mais c'est aussi le cimetière de mon père, bizarrement. C'est ça qui me trouble le plus. C'est mon lien maintenant à ce pays dont j'ai tant parlé, que j'ai chanté presque, parce que j'aime bien me dire aussi que je suis poète. Le vide est il y a un vide infini par rapport à ce territoire-là, cette nationalité. Cette culture, et je n'arrive pas à comprendre.
Ce sera ma dernière question, Nina Bouraoui. Dans ce titre Grand Seigneur, et à travers ce texte dans lequel vous dites finalement j'ai perdu aussi un guide, qui est-ce que je vais croire maintenant, en quoi je vais croire, qui est-ce que je vais suivre, est-ce qu'il y a quelque chose de sacré dans la relation père-fille?
Ah oui, certainement, mais il faut la désacraliser, sinon moi je me dis toujours qu'il faut que ce soit la vie qui gagne. Il faut que ce soit la vie qui soit la plus forte. J'ai pas peur du fantôme de mon père, hein, je l'appelle tout le temps, je vois des signes partout, ça me rassure. Si les fantômes n'existent pas, j'y crois quand même, ça me porte. Aujourd'hui, j'essaie de... Si je dois trouver du sacré, c'est en moi, dans la parole que je dois continuer à porter. Je sais que mes livres sont importants pour certains. J'avais écrit un livre qui s'appelait Beau Rivage. J'avais dit que ce livre était pour tous les quittés du monde. Et la mission de Grand Seigneur, ce serait peut-être un livre qui accompagne le deuil, même si j'aime pas du tout ce mot. Je trouve qu'on ne fait jamais son deuil, c'est pas vrai. Je pense que nous devons faire vivre les morts en nous, toujours. Ne pas les oublier, ne pas les enterrer une seconde fois. Nous devons les honorer. Donc le sacré, il sera à nouveau du côté de la littérature. Mais j'ai quand même beaucoup de chance. Grâce à mon métier, je peux refaire vivre mon père. Je l'entends rire dans ses pages. Je le vois sourire, je le vois marcher. Je le vois fumer ses cigarettes, je le vois porter son trench. Je le vois prendre ses avions, revenir, partir. Je le vois comme je le voyais enfant parfois à la télévision, parce que mon père a participé, il faut le dire, parce que c'est important à la libération des otages américains à Téhéran. C'était à la fin des années 70 et mon père a fait partie de cette délégation algérienne qui a négocié. Les livres, c'est un peu d'éternité. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour quelques mois au moins.
Et nous aussi, on entend les pas de votre père dans ce livre. Et nous aussi, on considère que votre écriture est indispensable. Et on espère bien que non, vous n'allez pas arrêter d'écrire, Nina Bouraoui. Vous reviendrez à la librairie Mola. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.